Il ne quittez pas ma vie sans avoir entendu deux mots. Ne partez pas, je vous en prie. Ne condamnez pas mon culot. Si mon regard vous déshabille, c'est qu'il est nu comme un sanglot. Que ma vie s'écroule et m'ennuie. Que je cours après les morceaux. Je voudrais savoir le prénom qu'on vous dit. Quand on vous connaît, je voudrais entendre le son de vos rires et de vos regrets. Je suis jaloux de vos voisins qui vous voient le printemps venu ouvrir vos volets le matin. Vous croyant un peu dévêtu, oh ma vie, ne quittez pas ma vie sans avoir entendu des mots. Ne partez pas, je vous en prie, ne condamnez pas mon culot. Si mon regard vous déshabille, c'est qu'il est nu comme un sanglot. Que ma vie s'écroule et m'ennuie, que je cours après les morceaux. Je voudrais savoir la lumière de vos gestes, de vos regards. Quand vous criez nu en guépière, quelques réalités sans phare. Déjà tout ça n'est pas très drôle, mais si en plus on doit finir sans vous, ça fait beaucoup pour les épaules. On va mourir carrément fou. Oh, mamie, ne quittez pas ma vie sans avoir entendu des mots. Ne partez pas, je vous en prie. Ne condamnez pas mon culot. Si mon regard vous déshabille, c'est qu'il est nu comme un sanglot. Que ma vie s'écroule et m'ennuie. Que je coule avec les morceaux. Pas pu vous dire un mot. Vous partez, mais je vous en prie, vous prendrez bien quelques sanglots. Emportez un regard qui vrille.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement.
Je suis allé aux États-Unis et figurez-vous que j'ai vu là-bas un spectacle assez affligeant et original pour le moins. Un émir un peu fou qui venait non pas d'Arabie mais du Nevada. Hein. Il était à poil et il dansait, il chantait. Oh, je me suis dit, mais ça c'est pas possible. Je vais raconter ça à mes amis. Un émir fada venu du Nevada frime nu. Un émir fada venu du Nevada frime nu.
Ah. Bonjour, bonjour à tous et à toutes sur Radio Libertaire, c'est Sévis Passem, c'est la section française de l'International des Résistants à la Guerre, tous les jeudis de 18h à 19h30 sur Radio Libertaire 89.4. Et on vous souhaite bonne année.
Une bonne année à toutes les auditrices et tous les auditeurs.
Et surtout, militer contre la guerre et tous les dérives qui découlent. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons avoir beaucoup de choses à vous parler. Déjà, il y a sur le dernier numéro de l'Union pacifiste, numéro 612, de décembre 23 à janvier 24, eh ben, y a pas mal de choses écrites par Yves Lecard et consorts. Voilà. Et toi, Elsa, tu vas nous faire un petit récap de ce que tu veux dire.
Oui, un récapitulatif. D'abord, lire l'édito du directeur général de Greenpeace France, du journal La Bannière. Et ce sera en effet suivi des avancées et victoires de Greenpeace en 2023 à travers le monde. Et puis leurs objectifs pour 2024. Et il y aura, si le temps imparti le permet, un moment de réflexion avec un extrait du pouvoir de Bertrand de Jouvenel.
Voilà. Merci beaucoup, Elsa. Je vais vous faire la rétrospective de Yves Lecard. Noël au balcon. Qui parle de dérèglement climatique? Il n'y a plus de saison, c'est un fait. Il n'y a plus de fête, ce n'est plus de saison. Plus de raison non plus, c'est la raison d'État, des raisons d'État. La seule raison d'être aux États, tous, quels qu'ils soient, est de régner par la guerre. Attila moderne, après lesquels l'herbe ne repousse pas, rien ne repousse. Il est là, le dérèglement climatique. Rien ne repousse, sinon les billets de banque que leur apporte leur guerre. Rien ne repousse, rien ne repense, rien ne compense les dégâts causés par leur politique, leur polémique, leur systémique micmac-caki. Plus de saison, plus de raison, ou plutôt plus qu'une saison. Celle de la guerre, celle du massacre des innocents. Plus de raisons de faire la fête, plus que des défaites, sauf pour les marchands d'armes, marchands d'âmes, fabricants de chemins des dames, fabricants de charniers, fabricants de chars. Ça aussi, c'est impensif, c'est impensable. Et pourtant, rien de plus réel, rien de plus actuel, rien de plus éternel. Joyeux Noël, les enfants, d'ici ou de là-bas, enfants piégés, enfants pieds et poings liés, embarqués sitôt que nés dans des querelles ancestrales, des chorales orchestrées par les religieux, par les pouvoirs du mensonge et de la magouille, de la fripouille, de l'embrouille. C'est lassant, tu crois pas, de toujours ressasser, de toujours répéter les mêmes évidences, de toujours constater que nous avons raison, que la préparation à la guerre ne peut mener qu'à la guerre. Chaque épisode, chaque prologue à la future guerre mondiale en est la preuve. Rien de nouveau à l'Est comme à l'Ouest, rien de nouveau au Moyen-Orient, aux moyens excédentaires. Rien de nouveau, aucun de nous ne veut subir ces sanguines picrocollines. Et vous avez beau jeu de parler de perturbations, de dérèglement climatique, beau jeu de faire semblant quand vous ne faites pas que cinglant, comme vos drapeaux qui se ressemblent tous par l'appel à la haine, à la tuerie, à l'appel aux armes qu'ils représentent. Parlons plutôt de vos dérèglements dramatiques, de vos règlements de compte, de vos règlements de ponte, de vos pontifs putatifs, dérèglements d'essence, non, pas comme le poète rimbaldien qui se fait voyant par le dérèglement de tous les sens. Non, vous, vous faites voyou par le déraillement de tout bon sens, quitte à broyer au passage quelques vies innocentes, quelques gosses, qui trinquent toujours à cause de l'enivrement des adultes. Addict au vin, addict aux armes, addict au fric, qui passe bien avant l'humanité et ses corollaires que sont la liberté, la fraternité, l'adelphité, la solidarité, solidité d'un monde de paix dont nous rêvons. Et ça, discutaille, ça taille dans le biscuit, ça fomente, ça commente, ça commerce les guerres d'ici et de là-bas. La question du jour n'est pas d'arrêter, de tout faire pour arrêter la guerre, mais simplement de savoir s'il y a une trêve à Noël, si le Père Noël va pouvoir circuler au milieu des gravats et des mares de sang. Pour distribuer quoi ? Les armes, d'après la trêve. Les joujoux, les mini-mitrailleuses pour les charmants bambins, la panoplie honteuse du futur assassin, pour citer Henri Tachant, qui ne voulait pas vieillir, qui ne voulait pas mourir et qui est parti trop discrètement cet été près d'Avignon. Et l'on choisit son camp. Comme les aficionados du football, le nationalisme est partout, la religion est partout. Quel que soit le camp choisi, c'est toujours, hélas, un camp militaire. Des terroristes d'un côté comme de l'autre, n'ayons pas peur des mots. Pas de dérèglement sémantique. Quant au dérèglement ou réchauffement climatique, qui l'a déréglé, le climat ? Les grands prédateurs, prédicateurs, imprécateurs, provocateurs, harangueurs de foule, ochlocrates, autocrates, tous autant déréglés, tous autant aveuglés, tout autant ameuglés, leurs slogans ridicules, bellicistes et vengeurs. Heureusement, il existe d'autres façons de réchauffer le climat. Il existe d'autres gens, d'autres agents, d'autres intelligences dont le but est réellement de construire un monde plus humain et moins déréglé. Et s'il n'y en a pas un sur 100, c'est qu'ils sont disséminés, éparpillés, perdus parmi les foules manipulées. Mais nous savons qu'ils existent. Ces anciens, enceints de ce monde de paix, et c'est à nous, et c'est à tous de les convaincre, de les rencontrer, de les rassembler, de les ressembler. En tout cas, j'étais en ce début novembre dans un tout autre monde, une autre planète, mais notre planète, planète de paix, planète de ces utopistes qui s'obstinent à croire qu'un autre monde est possible, que notre monde est possible. J'étais en bonne compagnie dans ce trou de creuse où l'enfant le plus connu du pays, le plus ancien, le plus éternel, fêtait ses 100 ans. Et oui, l'orphelin de Jean Thieu était bien entouré, malgré le climat, qui avait bien besoin d'être réchauffé. Surtout quand on se retrouve, comme ce fut le cas, privé d'électricité, donc de chauffage. Le réchauffement était humain. La chaleur humaine était là, et malgré quelques anonymes uluberlus, tagueurs, qui ne connaissent rien sans doute de l'histoire de ce monument, les festivités, conférences, spectacles auxquels j'ai eu le plaisir de participer furent une belle réussite. Noël avant l'heure pour ce petit bonhomme qui, depuis 100 ans, maudit la guerre. Puisse le Père Noël diffuser sa parole dans tous les sabots, tous les godillots, toutes les bottes, sans distinction de nationalité, de Dieu ou de drapeau. C'était la rétrospective de Yves Lecard.
Approchez, on va jouer à Pygmalion. Pygmalion, c'est un petit jeu qui permet de faire disparaître des millions d'euros des caisses d'un parti au profit d'un candidat en campagne. Si tu es sans foi ni loi, si tu te crois au-dessus du droit, si tu penses que le pognon c'est ton seul dieu, ton roi, mon ami tes murs pour jouer avec moi.
Jouer à
Cache-Million,
Big Malion.
Fausse facture, vraies enflures, magouillon. Attention, 1 million, disparition. Stop,
Big Malion, Big Malion.
Corruption, Sarcoton, Arnacon. Et maintenant, 2 millions, disparition. Stop,
Big Malion, Big Malion.
Pauvre Jean-François Copé, qui présidait l'UMP, sans savoir que ses copains trafiquaient dans son dos. Ça, il l'a appris en lisant les journaux.
C'est ballot.
Couillon,
Big Malion.
Formation, du bidon, extorsion. Attention, 3 millions, disparition.
Stop, Big Malion, Big Malion.
Lavrieux, malheureux, dépression. Plus ardu, 4 millions.
Stop, Big Malion, Big Malion. Pour faire élire Nicolas, il nous fallait un gros matelas. Et comme Kadhafi est mort, ce con, restait qu'une seule solution.
Big Malion, Big Malion. Gros meeting, bling bling, dévotion. Attention, 18 millions, disparition.
Stop, Big Malion, Big Malion, Big Malion, Big Malion.
Eh bien, vous demandez quels sont ces joyeux drilles qui nous enchantent les oreilles. Eh bien, c'est simplement les Goguettes. Dans leur premier album, Le Changement, c'est Doucement. Voilà. Et ce ne sera pas la seule chanson que je passerai durant l'émission. Voilà. Et ça.
Alors, voici l'édito de la bannière, rédigé par le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard. Poursuivre sans relâche. Chaque début d'année, le questionnement est le même. Comment souhaiter le meilleur à nos proches dans un monde en proie à de telles souffrances? Comment trouver encore de l'espoir au milieu des alertes qui résonnent toujours plus fort autour de nous? Se remémorer les victoires obtenues permet déjà de garder du sens à nos actions. En 2023, un traité international de protection des océans a été signé après 20 ans de négociations. Et les premières condamnations d'entreprises qui importent illégalement du bois tropical en France ont été prononcées. Notre plateforme Green Voice a enregistré des dizaines de victoires locales permettant la fin de pratiques de greenwashing et le maintien d'expérimentations utiles à l'écologie. Ensuite, se projeter dans nos missions à venir permet de garder la détermination nécessaire. En 2024, avec notre réseau international, nous ferons tout pour empêcher l'extraction des ressources minières des océans. Nous profiterons aussi de la première révision du règlement européen sur la déforestation importée pour rappeler qu'il faut réduire la production des fermes d'élevage et adopter un moratoire sur les fermes-usines. Nous continuerons bien sûr d'œuvrer à la construction d'un monde débarrassé des énergies fossiles qui mise sur la sobriété énergétique et les énergies renouvelables. Enfin, les élections européennes seront un scrutin clé pour beaucoup de nos préoccupations environnementales. Donc, je vais commencer le récapitulatif. Alors, donc, plus que jamais, la planète a besoin de Greenpeace. Plus que jamais, Greenpeace a besoin de ses adhérents. L'inquiétude. Alors que nous avons encore eu ces derniers mois la preuve du réchauffement climatique et de ses conséquences désastreuses, jamais les voix écologistes n'ont été autant étouffées. En France, la récente loi séparatisme approuvant le contrat d'engagement républicain pourrait nous fermer les portes des tribunaux administratifs et l'accès aux discussions politiques nationales et régionales en matière d'environnement et de développement durable. En Russie, c'est le bureau du procureur général de la Fédération de Russie qui a déclaré en mai 2023 Greenpeace International organisation indésirable. À travers le monde, l'érosion de nos ressources, assortie d'une inflation galopante, affecte déjà le financement de nos activités, des activités de Greenpeace. Un seul mot d'ordre, résistance. Les bouleversements climatiques en sont la preuve. Plus que jamais, la mission de Greenpeace est nécessaire et vitale. C'est grâce aux adhérents que Greenpeace pourra faire face à l'adversité, résister à ses détracteurs et continuer à porter la voix de la planète en toute indépendance. Alors, je stoppe ici et je commence le récapitulatif en 2023 des victoires menées par Greenpeace. Un peu de positif pour cette nouvelle année. Donc, international océan, donc historique, il aura fallu près de 20 ans de négociations et d'intenses mobilisations, mais c'est chose faite. L'ONU a adopté en juin dernier un traité international pour la protection de la haute mer. Cet outil juridique rend possible la création d'aires marines protégées de toute activité humaine sur au moins 30% des océans. C'est un jour historique, le signe que la protection du vivant peut triompher de la géopolitique, a déclaré depuis New York Laura Meller, chargée de campagne océan pour Greenpeace Pays Nordique. Cette victoire décisive est due à 5,5 millions de personnes qui ont signé la pétition de Greenpeace pour cette protection des océans. Alors, gain de cause. Brésil Pétrole. Après 5 ans de sensibilisation et d'efforts scientifiques pour cartographier le grand récif de l'embouchure de l'Amazone, Greenpeace a gagné. L'autorité environnementale brésilienne, IBAMA, a rejeté la demande de Petrobras d'y exploiter du pétrole, protégeant ainsi la biodiversité exceptionnelle abritée en ces lieux. Plus d'échappatoire. France, énergie fossile. Total Energy devra faire face au débat de fond sur la légalité de son greenwashing. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé recevable le recours de Greenpeace France et de 2 autres associations contre la major pour pratiques commerciales trompeuses. Une première, France Forêt. Suite aux plaintes déposées par Greenpeace France en 2 entreprises françaises ont comparu devant un tribunal correctionnel pour mise sur le marché illégal de bois en provenance du Brésil. Déclarées coupables, l'entreprise Pierre Robert et le leader français ISB France ont été respectivement condamnés à 20 000 et 10 000 euros d'amende et à la publication de leur jugement dans la presse. Les organisations de la société civile et la justice ont un rôle essentiel à jouer pour pallier les manquements des autorités dans leur mission de contrôle des entreprises. Alors, avancée majeure, Sénégal, océan. À Cayar, Greenpeace et les communautés de pêcheurs ont compilé des preuves de la pollution de l'eau par une usine de farine de poisson. Le maire a adopté un arrêté interdisant tout rejet d'eau usée industrielle dans l'environnement. Coup de maître. Aux USA, énergie fossile. Alors que l'industrie fossile est l'une des principales contributrices au réchauffement climatique, la Californie a adopté un premier projet de loi visant à plafonner les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières grâce à la vague de soutien populaire portée par Greenpeace USA. Les efforts paient. International océan. Contre l'exploitation minière des fonds marins, l'opposition ne cesse de croître avec déjà une 20aine de pays favorables à un moratoire empêchant le démarrage de cette activité industrielle dont les conséquences seraient dramatiques pour la biodiversité et le climat. En juin, Le gouvernement suisse s'est lui aussi prononcé contre, suivi dans le courant de l'été par le Canada et le Brésil. Et la mobilisation monte. La pétition du Greenpeace contre cette nouvelle menace qui pèse sur les océans a déjà recueilli plus de 320 000 signatures en France et plus d'un million à l'international. Après avoir obtenu une opposition ferme de la France, Greenpeace a maintenu la pression sur les autres pays lors des trois sessions de négociation de l'Autorité internationale des fonds marins, AIFM, à Kingston en Jamaïque. Et Greenpeace continuera son travail de plaidoyer pour que la France prenne une part active dans l'obtention d'un moratoire. Donc, révéler et dénoncer toutes les menaces. Le secteur des énergies fossiles, comme l'industrie des transports carbonés, nous enlise dans la crise climatique en contribuant au réchauffement planétaire. À l'ère de l'ébullition mondiale, expression employée par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, le 27 juillet 2023. Il est plus que temps de préserver les écosystèmes qui nous permettront de réguler le changement climatique, à commencer par les océans. Alors, nous ne nous tairons pas. Le 28 avril dernier, Total Energy a assigné Greenpeace France en justice. Cette procédure Bayon vise clairement à réduire au silence cette organisation en s'attaquant à son rapport bilan carbone de Total Energy. Le compte n'y est pas. Dans lequel Greenpeace dénonce la sous-déclaration des émissions de gaz à effet de serre par le plus gros pollueur français. 1,6 milliard de tonnes de CO2 en 2019, c'est la quantité des émissions carbone de Total Energy que Greenpeace a calculée contre 455 millions déclarés. On prend conscience du décalage. Si cela visait à nous décourager, c'est raté. Nous sommes prêts. Nous continuerons de lever le voile sur la responsabilité de Total Energy dans le réchauffement climatique. Rendez-vous au tribunal, a déclaré Jean-François Julliard, le directeur général de Greenpeace. Plus tôt dans l'année, Greenpeace a également publié un nouveau rapport sur le science washing de Total Energy, c'est-à-dire l'influence exercée par le major sur la recherche scientifique française. Sur 103 structures publiques audité, 55% entretiennent en effet des liens, plus ou moins étroits, avec le groupe Petrograsier. Sponsoring, collaboration, création de laboratoires communs, participation ou gouvernance en surfinançant des projets, correspondant à ses intérêts, Total Energy oriente l'avancée de la recherche pour imposer face à la crise climatique des technologies dont le groupe sera le premier à tirer profit. Contre l'exploitation minière en eau profonde, Greenpeace fait avancer le débat en partenariat avec des scientifiques de l'université d'Exeter, Royaume-Uni. Son laboratoire de recherche a publié en février dernier une étude sur les effets potentiellement irréversibles de cette industrie. Alors, accrochez-vous. Des activistes de Greenpeace ont occupé pendant 13 jours un bateau transportant une plateforme pétrolière destinée à agrandir un champ pétrogazier en mer du Nord. Leur but, dénoncer le nouveau projet climaticide de Shell en tentant de perturber l'acheminement de cet équipement. Mais où va-t-on ? Greenpeace a mené une étude comparative accablante. Pour voyager en Europe depuis la France, le train coûte en moyenne 2,6 fois plus cher que l'avion. Pourtant, l'impact climatique global de l'avion est 80 fois supérieur à celui du train. Son objectif ? Pousser le gouvernement à développer le transport ferroviaire et à le rendre plus accessible. Nous alertons notamment sur les risques pour les écosystèmes océaniques et la menace qui pèse en termes de pollution sonore sur les cétacés. Les chevauchements entre les zones de présence des grands animaux marins et les sites cibles de l'exploitation minière exigent d'évaluer urgemment le niveau de danger. La zone de Clarion-Clipperton dans l'océan Pacifique abrite ainsi au moins 25 espèces de cétacés, alors que 17 licences d'exploration minière en eau profonde y ont été accordées. Au-delà de cette étude, sous l'impulsion de Greenpeace et de son travail de plaidoyer contre l'exploitation minière en eau profonde, plus de 20 gouvernements demandent aujourd'hui un moratoire. Pour un monde sans plastique, Alors que la planète étouffe sous les déchets plastiques, les grandes entreprises de la pétrochimie ou de l'agroalimentaire doivent immédiatement cesser de nous inonder avec leur emballage plastique. Les Nations Unies ont donc organisé, du 29 mai au 2 juin, une deuxième session de négociation pour l'adoption avant fin 2024 d'un traité international contre la pollution plastique. La bataille est engagée et Greenpeace reste mobilisé partout dans le monde pour mettre la pression sur les responsables politiques et économiques et en finir avec ce fléau honteux. Alors, je vous prie de m'excuser un petit blanc, excusez-moi. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. C'est l'effet du direct. Alors, détermination pour faire face à l'urgence climatique. L'année 2023 sera probablement la plus chaude de l'histoire. Les aléas climatiques extrêmes ont frappé l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Afrique du Nord dans des proportions inédites au niveau humain, environnemental et économique. Face à l'urgence, Greenpeace est plus déterminé que jamais à faire bouger les lignes. Mobiliser les énergies à bon escient. Il est temps d'accélérer la transition énergétique. Des activistes de Greenpeace France et d'autres associations ont marqué les esprits le 18 février en éteignant ou recouvrant 2400 dispositifs publicitaires lumineux dans 38 villes de France. À l'heure où les prix flambent sous l'effet de la guerre en Ukraine, ils et elles ont ainsi dénoncé l'indifférence des politiques publiques quant au gaspillage énergétique des gros consommateurs d'électricité et l'injuste répartition des efforts, un sujet pourtant crucial dans la course à la sobriété. C'est d'ailleurs dans cette perspective que Greenpeace a diffusé en début d'année son guide des économies d'énergie qui propose des actions individuelles et collectives pour limiter notre impact sur la planète. Astuces quotidiennes, sensibilisation de ses proches, de son entreprise ou de sa ville, ce guide invite à soutenir à toutes les échelles des mesures ambitieuses de sobriété et d'efficacité énergétique. Les entreprises des énergies fossiles en ligne de mire. Alors que les entreprises fossiles occidentales sont responsables de la grande majorité des émissions de CO2 dans le monde, les populations du Sud paient au prix fort les conséquences du changement climatique. Taxons les superpollueurs, tel est le message que Greenpeace France et d'autres ONG ont projeté sur la façade du palais Brongniart à Paris lors du sommet international pour un nouveau pacte financier mondial. Pour exiger la taxation des industries les plus polluantes et soutenir financièrement les pays vulnérables frappés par les changements climatiques, une pétition regroupant déjà 75 000 signatures sera également présentée lors de la COP28 du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. 200 milliards de dollars, ce sont les profits engrangés en 2022 par les 5 plus grosses entreprises fossiles occidentales, Total Energy, BP, Shell, ExxonMobil, Chevron. Alors, de 290 à 580 milliards de dollars. C'est ce que pourraient coûter chaque année les pires impacts du changement climatique aux pays en voie de développement. Alors, rapport, le nucléaire français sous l'emprise russe. Greenpeace a levé le voile en mars sur l'étroite dépendance de l'industrie nucléaire française envers l'entreprise nucléaire russe Rosatom, qui a la mainmise sur une grande partie de nos importations d'uranium naturel. En outre, la France a quasiment triplé ses importations d'uranium enrichi russe. Elle représente un tiers de la quantité nécessaire aux centrales nucléaires françaises sur un an. Vous avez dit souveraineté énergétique. Alors, les actions à fort potentiel d'impact. Plus que jamais, Greenpeace soutient un élevage écologique, local et indépendant. Greenpeace s'oppose à l'industrialisation de la production animale à travers les fermes-usines qui engendrent des pollutions environnementales graves, des problèmes sanitaires, une accélération de la déforestation et la mise en danger des activités des agriculteurs et agricultrices qui ne veulent pas se plier à ce modèle. Enrayer le développement d'un des plus grands désastres humains et écologiques. Pour illustrer l'industrialisation de l'élevage, Greenpeace France a publié en mai une carte des fermes-usines par région. Il y a de quoi s'affoler. En France, 60% des animaux sont concentrés dans 3% des fermes d'élevage. Plus de 200 millions d'animaux seraient actuellement enfermés dans ces fermes-usines, dont certaines peuvent compter jusqu'à 1,1 million de volailles ou 21 000 porcs. La mobilisation prend de l'ampleur. La pétition de Greenpeace contre les fermes-usines en France a déjà récolté 136 000 signatures. Dans ce domaine, nos actions de plaidoyer portent leurs fruits. L'Europe a voté cette année en faveur d'une réduction de la pollution liée à l'élevage industriel et la Cour des comptes a pointé du doigt les émissions de méthane associées à l'élevage bovin. Pour mettre les décideurs politiques face à leurs responsabilités, nos activistes multiplient les passages à l'acte. À Landunvez, en Bretagne, il et elle ont défilé aux côtés du collectif Stoppons l'extension d'Avelvox, qui lutte depuis plus de 8 ans pour faire reconnaître la dangerosité de la méga ferme-usine de la commune. Greenpeace a également mobilisé son expertise juridique en rejoignant le recours pour faire annuler l'extension prévue. Et Greenpeace ne lésinera sur aucun moyen. Son devoir d'information du grand public s'est traduit par des publications concernant le dopage des pollutions, notamment au nitrate, par la surproduction de viande et de produits laitiers dans notre système d'élevage industriel. Le Greenpeace est également passé à l'action en déversant près d'une tonne d'algues devant la préfecture du Finistère à Quimper. Des banderoles et des photos ont été déployées autour du bâtiment pour montrer les conséquences catastrophiques des fermes-usines dans cette région et exiger un moratoire sur les projets de construction ou d'extension de fermes-usines en France. Alors, nouvelle micro-forêt de Greenpeace au Luxembourg. Sur la commune de Merzig, 600 arbres ont été plantés par 200 personnes à l'initiative du bureau Greenpeace luxembourgeois. Les bienfaits, sérénité visuelle, développement de la biodiversité, influence positive sur le microclimat. Déforestation. Alors que la consommation européenne, tout domaine confondu, représente 10% de la déforestation mondiale, Greenpeace reste mobilisé après l'adoption fin 2022 du règlement européen contre la déforestation importée. L'objectif est de garantir son efficacité en veillant à ce que chaque État membre mette à la disposition des autorités compétentes les moyens humains et économiques nécessaires aux exigences de la nouvelle législation. Alors, là, il s'agit des objectifs pour cette année 2024. Résistons ensemble face à l'urgence climatique et aux enjeux environnementaux. Alors, océan. Avec les adhérents en 2024 pour garantir la préservation des océans, Greenpeace devra veiller à obtenir la ratification rapide du traité international de l'ONU sur la haute mer, faire interdire l'exploitation minière en eau profonde. En l'absence de moratoire et de code minier, la menace est lourde de voir des entreprises obtenir des licences d'exploitation. Pour rallier à la cause des océans le plus grand nombre d'États possible, il nous faudra organiser des expéditions scientifiques, mieux identifier les menaces dont certaines sont encore méconnues, oser la confrontation en mer contre les entreprises destructives. Pétrole et transport. Alors, avec les adhérents en 2024, Greenpeace dérogera pas à l'objectif ambitieux qui s'est fixé, mettre fin à l'expansion de tous les projets fossiles. Ils ne tergiverseront pas quant aux moyens à déployer pour exiger des mesures politiques contraignantes à l'égard des multinationales responsables comme Total Energy en France, en s'appuyant sur des investigations approfondies, des expertises financières éclairées et la poursuite d'actions en justice. Climat et énergie. La combinaison des crises énergétiques et climatiques engage Greenpeace à accélérer la transition énergétique. Face au manque d'ambition des gouvernements et à leur inaction, avec les adhérents, Greenpeace devra faire entendre sa voix pour réduire significativement la consommation d'énergie, promouvoir la sobriété et le développement d'énergies 100% renouvelables, sortir des énergies fossiles responsables des événements climatiques extrêmes et favoriser la justice climatique, stopper le projet de relance du nucléaire, une technologie fragile et hors délai face à l'urgence climatique. Agriculture et forêt. Le modèle dominant d'agriculture industrielle entièrement voué au productivisme et à la rentabilité nous mène droit à la catastrophe. Il est urgent de repenser notre modèle agricole et de donner enfin la priorité aux filières végétales et à l'élevage écologique. Avec ses adhérents, en 2024, Greenpeace sera sur le terrain pour combattre les fermes-usines en ciblant davantage les responsables politiques locaux et en poussant les régions à prendre des engagements, prouver le lien étroit entre pollution et élevage industriel, ralentir la déforestation massive causée par l'alimentation en soja des animaux élevés dans ces fermes-usines. Et donc là, c'est la fin du rapport 2023, victoire 2023, objectif 2024. Et il me semble qu'une pause musicale est nécessaire.
Tout à fait, là.
Oh là là, la vie en verre, tout le verre qu'on nous sert pour lutter contre l'effet de serre et nettoyer l'atmosphère. Allons-nous fait croire que l'avenir c'est d'avoir des hybrides, des Google Cars. C'est vraiment se foutre de notre gueule car fuel sentimental. On a soif de gasoil, on en achète pour 100 balles, 100 mal, aux pompes du centre commercial. Fuel sentimental, le sans-plomb c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Explique transition écologique quand on remplit les barriques en direct du golfe Persique. On nous assène qu'il faut changer d'oxygène pendant que dans le ciel les avions se promènent sans que ça gêne, sans taxe sur leur kérosène. Fuel sentimental, soif de gasoil, ça nous minerait le moral total, face des pertes colossales. Fuel sentimental, c'est une passion mondiale, passion mondiale. On nous François de Rugy, si c'est ça l'écologie,
autant lâcher l'affaire et ouvrir toutes les vannes.
Yes we can, yes we jerry can. Fuel sentimental, soif de gasoil, on va pas dans les étoiles à voile, à vélo ou à cheval. Fuel sentimental, le pétrole c'est capital, pour le capital.
Eh oui, c'est encore les goguettes. Et c'est tiré d'une chanson de Alain Souchon, Foule sentimentale. Voilà. Et c'était tiré de deuxième album des Goguettes, globalement d'accord. Voilà. Je vais vous lire deux, trois choses. Déjà, le tour du monde en 80 guerres. Des faits, des chiffres et des guerres. Selon le quotidien La Croix, entre le 24 janvier 2022 et le 31 juillet 2023, la France a fourni 500 millions d'euros d'armes et d'équipements à l'armée ukrainienne. Selon Le Monde, l'aide militaire de Paris à Kiev atteint 3 milliards d'euros. Et on dit que la France est pauvre. Depuis 2013, Paris vend à Israël pour 20 millions d'euros par an de composants militaires Thales. Ces exportations rendent la France complice de la guerre à Gaza. Elle pourrait être poursuivie sur la base de ses propres engagements internationaux. Les États ont le devoir de prévenir le risque de génocide. Le gouvernement américain est de loin celui qui fournit le plus gros appui militaire à l'Ukraine, avec plus de 42 milliards d'euros d'armes et d'équipements de guerre. Parmi les principaux soutiens militaires figurent également la Pologne, les Pays-Bas et les pays nordiques, dont l'aide militaire bilatérale s'échelonne entre 1 et 4 milliards d'euros. Entre parenthèses, les chiffres de fin juillet 2023. En France, on constate une intense formation de soldats ukrainiens. Pendant la guerre, les ventes continuent. Le 12 novembre dernier, Helsinki a commandé un système de fronde de David de défense antimissile auprès d'Israël pour 317 millions d'euros afin de protéger la Finlande, territoire frontalier de la Russie, sur 1300 km. Du pognon, il en reste pour la guerre. L'Ukraine va augmenter ses dépenses militaires en 2024. Le budget consacré à la défense atteindra l'équivalent de 43,9 milliards d'euros, soit 22,1% du PIB. Le gouvernement a néanmoins estimé avoir besoin d'une aide de 41 milliards de dollars pour la part de ses pays alliés. Alors, où ils ont de l'argent, mais ils demandent encore un peu plus. Le monde est fou. Complicité de crimes de guerre. Le 17 juillet 2014, pendant l'opération Bordure Protectrice menée par Israël dans la bande de Gaza, trois des enfants Skuelbard profitent d'une trêve pour jouer avec deux cousins. Un missile les frappe de plein fouet. Bilan, trois morts et deux blessés graves. Dans les débris se trouve un capteur dont le fabricant est la société française Exelia Technologies. En 2016, une première plainte pour homicide involontaire et complicité de crimes de guerre est classée sans suite. Il a fallu attendre 9 ans après la tragédie pour que les plaignants soient entendus par un juge. Entre-temps, Exelia a été rachetée par une société américaine, mais la procédure suit son cours. Des Russes opposés à la guerre emprisonnés. Près de 20 000 réfractaires à la guerre ont été arrêtés depuis le début 2022 en Russie. Ils sont parfois condamnés à de fortes peines. En une semaine, les tribunaux russes peuvent examiner 80 affaires à connotation politique. Record battu. Avec 27 milliards d'euros d'exportation en 2022, la France bat ses records. Troisième vendeuse d'armes dans le monde, elle est d'ores et déjà la médaille de bronze des Jeux Olympiques militaires. Et ce tour du monde en 80 jours a été rédigé par Rémi Thomas, qui anime le quatrième jeudi de chaque mois. Alors là, je vais vous lire un petit texte de Yves Locard, encore un autre. Mais celui-là, il est très drôle. Je vais le fredonner parce que vous comprendrez pourquoi. Petit Papa Noël, j'ai descendu nos poubelles débordantes des jouets guerriers de tous les mômes du quartier. Pour nous faire plaisir, Il faudrait enfin choisir. Soit c'est la fête des enfants, soit c'est la fête des marchands. Les marchands de mort, même en miniature, tous les enfants en ont assez. Il serait grand temps que ces pourritures en soient débarrassées. Petit Papa Noël, quand tu verras nos poubelles, avec ces aurores par milliers, tu seras dans tes petits souliers. Tous les enfants du monde, en cette même seconde, ont vidé caves et greniers de tous leurs vieux jouets de guerriers. Il nous tarde tant que la paix se lève, pour toujours sur l'humanité, que tous les soldats se mettent en grève, et cela pour l'éternité. Ta hôte sera beaucoup plus légère lorsque tu auras démoli tous ces wargames qui coûtent si cher et mille autres panoplies. Petit Papa Noël, redescends-nous nos poubelles quand tu les auras nettoyées de toutes ces traces de jouets guerriers. Alors, tu pourras réveiller tous les enfants du monde entier. Texte de Yves Le Carre.
Quand on arrive au travail, on est content, zaï zaï zaï. Mais hélas, en fin de journée, quel dommage, il faut rentrer.
Ah ah ah, ça oui. Heureusement, y a un ministre qui a su nous rendre moins tristes en nous permettant de rester jusqu'à l'aube du jour d'après.
Laï 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 laï,
merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Quel plaisir de travailler la nuit, ça évite les insomnies.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Bosser par jour 24 heures,
ça nous permet d'être à l'heure.
Avant le dimanche, les touristes trouvaient Paris très sinistre. Les pauvres étaient obligés de se faire chier dans des musées.
Ah ah ah, ça oui.
Mais depuis Castorama est ouvert, ils sont en joie. Et au lieu de voir Caravage, ils vont acheter du carrelage.
Laï 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 laï, yeah.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Quel plaisir de travailler le dimanche
quand il y a du pain sur la planche.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Et comme a dit le roi de France,
mon ennemi c'est les vacances.
Avant tous on avait peur d'être augmenté, quelle horreur. Y'a rien de moins motivant que de gagner plus d'argent.
Ah ah ah, ça oui.
Fort heureusement aujourd'hui, grâce à la loi El Khomri, les salaires pourront baisser, sauf pour Vincent Bolloré.
Laï 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 laï, yeah.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Quel plaisir d'être compétitif, si vous saviez comme on kiffe.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Mais ne serait-il pas plus sage
de rétablir l'esclavage?
Bien sûr, vous avez reconnu l'air des Charlots, ça. Merci, patron. Et là, le texte a été, les paroles ont été faites par Stan, qui fait partie des quatre goguettes. Et comme nous avons besoin de souffler un petit peu, vous avez un texte supplémentaire.
Nous sommes en l'an 33, après Éric Drouet. Toute la France est envahie par des Gaulois réfractaires en gilets jaunes qui prennent en otage des ronds-points. Et tandis que la Startup Nation commence à ressembler à une EURL au bord de la faillite, des hordes de migrants déferlent à nos frontières, attirés par l'odeur de la CMU et des APL. Seul un héros sera capable de sauver la France de la catastrophe qui s'annonce. Mais là-bas, regardez qui passe dans le ciel. C'est un oiseau? Non. C'est un avion? Non. C'est
Emmanuel.
parmi nous,
Emmanuel.
Alors réjouissez-vous,
Emmanuel.
Il a quitté l'Olympe,
Jupiter.
Alors qu'il gagnait une blinde
chez Rothschild,
il récrit ici-bas,
Emmanuel.
Les tables de la loi,
Emmanuel.
Il veut notre bien,
Emmanuel.
Il a un très bon fond de teint,
En marche
vers un avenir radieux,
En marche
vers un monde merveilleux,
En marche.
C'est fini les partis,
En marche.
Oui, un seul ça suffit,
Emmanuel.
Taquine les étudiants,
Emmanuel.
Baisse les aides au logement,
c'est bien fait.
Oh, je comprends que c'est un souci,
pauvre Piquet.
5 euros, c'est le prix d'un demi,
Emmanuel.
S'en prend aux retraités,
Emmanuel.
Augmente la CSG,
et tant pis.
Si ça te fait moins d'argent,
on s'en fout.
Y'a pas marqué ruissellement,
En marche.
Apprends à te nourrir,
En marche.
Et tu pourras l'ouvrir,
En marche.
Si tu rêves du grand soir,
En marche.
Paye-toi déjà un costard,
Emmanuel.
Propose un grand débat,
Emmanuel.
A des questions pour toi,
pas besoin
de te creuser trop la tronche,
de toute façon
il a déjà les réponses,
Emmanuel.
S'exprime à la télé,
Emmanuel.
Quand il faut bien y aller,
il vous aime.
Oh oui, chère populace,
c'est Noël.
Tiens, place, s'emballe et en mars,
En marche.
Vive le pragmatisme,
En marche.
Abat les populismes,
En marche.
Le peuple s'est déglandu,
En marche.
Ils ont qu'à se bouger le cul,
comme nous. Nous on est conquérants, oui nous. On est entreprenants, En marche.
Pour le pouvoir d'un seul,
En marche.
J'ai rien pour vos gueules,
En marche.
Montons les pleins pouvoirs,
En marche.
Et chantons sa gloire,
En marche.
Et que son règne dure,
ça fait du bien. Encore une petite goguette. Là, ça va vous lire peut-être un chapitre de Bertrand de Jouvenel.
Oui.
Ce serait...
Oui, une soupe à... la suite du premier chapitre, les théories de la souveraineté, avec la sous-partie, la souveraineté divine.
C'est-à-dire...
L'idée que le pouvoir vient de Dieu a soutenu, durant les temps obscurs, une monarchie arbitraire et illimitée. Cette représentation grossièrement erronée du Moyen-Âge est solidement ancrée dans les esprits ignorants, servant de commode terminus a quo, pour ensuite dérouler l'histoire d'une évolution politique vers le terminus ad quem de la liberté. Tout ici est faux. Rappelons, sans y insister maintenant, que le pouvoir médiéval était partagé avec la curia regis, limitée par d'autres puissances autonomes dans leur cadre, et que surtout, ils n'étaient pas souverains. Nous entendons qu'ils n'étaient pas souverains au sens moderne du mot. La souveraineté médiévale n'est autre chose que supériorité, du latin populaire, superanum. C'est la qualité qui appartient au pouvoir placé au-dessus de tous les autres et qui n'a pas lui-même de supérieur dans la série temporelle. Mais de ce qu'il est le plus élevé, il ne découle point que le droit du souverain soit d'une autre nature que les droits qu'il coiffe. Il ne les brise pas, n'est pas regardé comme leur source et leur auteur. Quand ci-dessus nous décrivons le caractère du pouvoir souverain, nous nous référons à la conception moderne de la souveraineté qui s'est épanouie au XVIIe siècle. Car c'est le caractère essentiel du pouvoir souverain d'avoir la puissance législative, d'être capable de modifier, à sa guise, les normes de comportement imposées au sujet, de définir à sa guise les normes présidant à sa propre action, d'avoir enfin la puissance législative en étant lui-même au-dessus des lois, legibus solutus absolu. Ou à moins que ce soit legibus solutus, je vous prie d'excuser mon latin. Or, le pouvoir médiéval, au contraire, était tenu théoriquement et pratiquement par la lex terrae conçue comme immuable. Le nolimbus... Je vous prie d'excuser, le latin, c'est vraiment pas mon fort. Le nolimus leges angliae mutare des barons anglais exprime à cet égard le sentiment général de l'époque. Dans le grand ouvrage consacré par les frères Carlyle aux idées politiques du Moyen-Âge, on trouve 100 fois réitérée cette idée, démontrée par l'ensemble de leurs recherches, que le monarque était conçu par les penseurs médiévaux et généralement regardé comme au-dessous de la loi, obligé par elle et incapable de la changer par voie d'autorité. La loi est pour lui un donné et, à vrai dire, le véritable souverain. Loin d'avoir causé la grandeur du pouvoir, le concept de souveraineté divine a donc coïncidé pendant de longs siècles avec sa petitesse. Sans doute, on peut citer des formules frappantes. Jacques Ier ne disait-il point à son héritier « Dieu a fait de vous un petit Dieu pour siéger sur son trône et gouverner les hommes. » C'est cité par, Marc Bloch, les rois thaumaturges. Louis XIV, n'instruisait-il pas le dauphin en des termes fort semblables ? Celui qui a donné des rois au monde a voulu qu'ils fussent honorés comme ses représentants, en se réservant à lui seul de juger leurs actions. Celui qui est né sujet doit obéir sans murmurer, telle est sa volonté. Bossuet même, prêchant au Louvre, ne s'écriait-il pas « Vous êtes des dieux encore que vous mouriez et votre autorité ne meurt point. » Citation le jour des rameaux. Sans doute, si Dieu, père et protecteur de la société humaine, a lui-même désigné certains hommes pour les régir, les a appelés ses Christs, les a fait ses lieutenants, leur a mis l'épée en main pour administrer sa justice, comme l'affirmait encore Bossuet, alors le roi, fort d'une telle investiture, doit apparaître à ses sujets comme leur maître absolu. Mais de telles formules ne se rencontrent avec une telle acception qu'au XVIIe siècle. Ce sont propositions hétérodoxes par rapport au système médiéval de la souveraineté divine. Nous surprenons ici un cas frappant de subversion d'une théorie du pouvoir au profit du pouvoir concret. Subversion dont nous avons dit, et nous verrons qu'elle constitue un phénomène très général. La même idée que le pouvoir vient de Dieu a été énoncée et employée en plus de 15 siècles dans des intentions fort différentes. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, évidemment, voulait combattre dans la communauté chrétienne de Rome les tendances à la désobéissance civile qui présentaient le double danger de précipiter les persécutions et de distraire l'action chrétienne de son objet réel, la conquête des âmes. Grégoire le Grand, à l'époque où l'anarchie guerrière à l'Occident, l'instabilité politique à l'Orient détruisaient l'ordre romain, sentait la nécessité de raffermir le pouvoir. Les canonistes du IXe siècle, notamment Hincmar de Reims, tâchaient d'étayer le pouvoir impérial chancelant que l'Église avait restauré pour le bien commun. Autant d'époques, autant de besoins, autant de sens. Mais il s'en faut qu'avant le Moyen-Âge, la doctrine du droit divin ait prévalu. C'étaient les idées dérivées du droit romain qui dominaient les esprits. Et si nous prenons le système du droit divin à l'heure de son épanouissement, depuis le XIe jusqu'au XIVe siècle, que constatons-nous ? On répète la formule de saint Paul, « Tout pouvoir vient de Dieu », mais beaucoup moins pour inviter les sujets à l'obéissance envers le pouvoir que pour inviter le pouvoir à l'obéissance envers Dieu. Loin que l'Église, en appelant les princes représentants ou ministres de Dieu, veuille leur communiquer la toute-puissance divine. Elle s'est au contraire proposée de leur faire sentir qu'ils ne tiennent leur autorité que comme un mandat et doivent donc en user selon l'intention et la volonté du maître dont ils l'ont reçu. Il ne s'agit pas de permettre au prince de faire indéfiniment la loi, mais bien de plier le pouvoir à une loi divine qui le domine et l'oblige. le roi sacré du Moyen-Âge, nous présente le pouvoir le moins libre, le moins arbitraire que nous puissions imaginer. Car il est tenu tout ensemble par une loi humaine, la coutume, et par la loi divine. Et ni d'un côté, ni de l'autre, on ne se fie à son seul sens du devoir. Mais, comme la cour des pères l'astreint à respecter la coutume, l'Église veille à ce qu'il reste l'administrateur diligent du monarque céleste dont il doit en tout point suivre les instructions. L'Église l'avertit en lui remettant la couronne. Par elle, vous devenez participant à notre ministère, disait l'archevêque du roi de France en le sacrant au XIIIe siècle. De même que nous sommes, pour le spirituel, les pasteurs des âmes, de même vous devez être, pour le temporel, vrai serviteur de Dieu. Elle lui répétait sans cesse la même objurgation. Ainsi, Yves de Chartres, écrivant à Henri Ier d'Angleterre après son avènement, « Prince, ne l'oubliez pas, vous êtes le serviteur des serviteurs de Dieu et non leur maître. Vous êtes le protecteur et non le propriétaire de votre peuple. » Enfin, s'il remplissait mal sa mission, elle disposait à son égard de sanctions qui devaient être bien redoutées pour que l'empereur Henri IV vint s'agenouiller devant Grégoire VII dans la neige de Canossa. Telle, dans tout son éclat, dans toute sa force, fut la théorie de la souveraineté divine, si peu favorable au déploiement d'une autorité sans frein qu'un empereur, qu'un roi préoccupé d'étendre le pouvoir, se trouve naturellement en conflit avec elle. Et si, pour briser le contrôle ecclésiastique, on les voit parfois faire plaider qu'ils tirent leur autorité immédiate de Dieu sans que personne puisse en surveiller l'emploi, thèse qui s'appuie principalement sur la Bible et l'épître de Paul, il est bien remarquable qu'ils recourent plus souvent et plus efficacement à la tradition juridique romaine qui attribue la souveraineté au peuple. C'est ainsi qu'entre beaucoup d'autres champions du pouvoir, l'aventurier Marsile de Padoue, au profit de l'empereur non couronné Louis de Bavière, postule la souveraineté populaire en place de la souveraineté divine. Le suprême législateur du genre humain, affirme-t-il, n'est autre que l'universalité des hommes auxquels s'appliquent les dispositions coercitives de la loi. Il est bien significatif que le pouvoir s'appuie sur cette idée pour se rendre absolu. Citation. La théorie démocratique de Marsile de Padoue aboutit à la proclamation de l'omnipotence impériale, dit Noël Valois. C'est elle qui lui servira à s'affranchir du contrôle ecclésiastique. Pour qu'il puisse, après avoir argué du peuple contre Dieu, arguer de Dieu contre le peuple, double manœuvre nécessaire à la construction de l'absolutisme, il aura fallu une révolution religieuse. Il aura fallu la crise provoquée dans la société européenne par la réforme et les énergiques plaidoyers de Luther et de ses successeurs en faveur du pouvoir temporel qui devait être émancipé de la tutelle papale pour pouvoir adopter et légaliser leur doctrine. Les docteurs réformateurs apportent ce cadeau aux princes réformés. De même que le Hohenzollern, qui régissait la Prusse comme grand maître de l'ordre teutonique, s'autorisa des conseils de Luther pour se déclarer propriétaire des biens qu'il tenait comme administrateur, de même les princes, rompant avec l'Église de Rome, en profitèrent pour s'attribuer comme propriété le droit souverain qui jusqu'alors ne leur avait été reconnu que comme mandat sous contrôle. Le droit divin qui avait été au passif du pouvoir devenait un actif. Et cela, non seulement dans les pays adoptant la réforme, mais dans les autres aussi. L'Église, en effet, réduite à solliciter l'appui des princes, n'était plus à même d'exercer sur eux sa censure séculaire. Sans Luther, pas de Louis XIV, dit justement Figis. Par là s'explique le droit divin des rois, tel qu'il nous apparaît au XVIIe siècle, membre disjoint d'une doctrine qui n'avait pas posé les rois en représentants de Dieu vis-à-vis des sujets que pour simultanément les soumettre à la loi de Dieu et au contrôle de l'Église. J'ai le temps de... Alors. La souveraineté populaire. Loin que l'absolutisme trouve dans la théologie sa justification, les Stuarts et les Bourbons, dans le temps où ils élèvent leurs prétentions, font brûler par la main du bourreau les traités politiques des docteurs jésuites. Ainsi, on brûle à Paris en 1616... Ainsi, on brûle à Paris en 1610 le Dérégué et Régis Institutionné de Mariana et le Tractatus de Potestate Summi Pontificis Im Temporalibus de Berlamine et en 1614 le Defensio Fidei de Suarez de même à Londres. Non seulement ceci rappelle la suprématie pontificale, le pape peut déposer les rois et en constituer d'autres comme il l'a déjà fait, et aucun ne doit nier ce pouvoir. Mais encore, ils construisent une théorie de l'autorité qui écarte tout à fait l'idée d'un mandat direct confié au roi par le souverain céleste. Pour eux, il est vrai que le pouvoir vient de Dieu, mais non pas que Dieu en ait choisi l'attributaire. Il a voulu l'existence du pouvoir parce qu'il a donné à l'homme une nature sociale. La nature de l'homme veut qu'il soit un animal social et politique vivant en collectivité, avait dit saint Thomas. L'a donc fait vivre en communauté. Or, un gouvernement civil est nécessaire à cette communauté. Mais il n'a pas lui-même organisé ce gouvernement. Cela appartient au peuple de cette communauté qui doit, par nécessité pratique, le transférer à quelqu'un ou à quelques-uns. Ces détenteurs du pouvoir manient une chose qui vient de Dieu et donc sont asservis à sa loi. Mais aussi cette chose leur a été remise par la communauté, à des conditions énoncées par elle. Ils sont donc comptables envers elle. Il dépend du vouloir de la multitude, enseigne Bellarmin, de constituer un roi, des consuls et d'autres magistrats. Et s'il advient une cause légitime, la multitude peut changer la royauté en aristocratie ou démocratie et à rebours, comme nous lisons qu'il s'est fait à Rome. On conçoit que l'orgueilleux Jacques Ier se soit enflammé à la lecture de pareilles propositions. C'est alors qu'il écrivit son apologie du droit des rois. La réfutation de Suarez, écrite par ordre du pape Paul V, fut brûlée publiquement devant l'église Saint-Paul de Londres. Jacques Ier avait prétendu que, dans un ordre injuste, le peuple ne peut que fuir sans résistance la fureur de son roi. Il ne doit lui répondre que par ses larmes et soupirs, Dieu seul étant au secours. Bellarmin réplique « Jamais le peuple ne délègue tellement son pouvoir qu'il ne le conserve en puissance et ne puisse dans certains cas le reprendre en acte. » Dans cette doctrine jésuite, c'est la communauté qui, en se constituant, institue le pouvoir. La cité ou république consiste dans une certaine union politique qui n'aurait pas pris naissance sans une certaine convention, expresse ou tacite, par laquelle les familles et les individus se subordonnent à une autorité supérieure ou un administrateur de la société, la dite convention étant la condition d'existence de la communauté. Dans cette formule de Suarez, on a reconnu le contrat social. C'est par le vœu et consentement de la multitude que la société est formée, le pouvoir institué. En tant que le peuple investi des dirigeants du droit de commander, il y a un pactum subjectionis. Alors, l'innovation de Rousseau ne consistera qu'à diviser en deux actes successifs cet acte originel. Par le premier, la cité se constituera, par le second, elle désignera un gouvernement. Ce qui aggrave en principe la dépendance du pouvoir, mais ce n'est que poussé plus loin dans le sens de la pensée jésuite. On a compris que ce système était destiné à mettre en échec l'absolutisme du pouvoir. On va le voir pourtant, bientôt, déformé de façon à justifier cet absolutisme. Que faut-il pour cela ? Des trois termes, Dieu auteur du pouvoir, la multitude qui attribue le pouvoir, les gouvernants qui le reçoivent et l'exercent, il suffit de retirer le premier. D'affirmer que le pouvoir n'appartient pas immédiatement, mais immédiatement à la société, que les gouvernants la reçoivent d'elle seule, c'est la théorie de la souveraineté populaire. Mais dira-t-on, cette théorie est celle qui fait le plus sûrement obstacle à l'absolutisme. Là est l'erreur, comme nous allons la voir. C'est avec assez de maladresse que les champions médiévaux du pouvoir conduisent leur raisonnement. Ainsi, Marsile de Padoue a posé que le suprême législateur, c'est l'universalité des hommes. Ensuite, il avance que cette autorité a été transférée au peuple romain. Et il aboutit triomphalement. Enfin, si le peuple romain a transféré à son prince le pouvoir législatif, il faut dire que ce pouvoir appartient au prince des Romains, c'est-à-dire au client de Marsile, Louis de Bavière. L'argument étale sa malice avec candeur. Un enfant s'apercevrait que la multitude n'a été dotée d'un pouvoir si majestueux qu'afin de le porter par degrés successifs à un despote. Dans la suite des temps, la même dialectique saura se rendre plus plausible. Voici Hobbes qui, en plein XVIIe siècle, à la grande époque du droit divin des rois, veut faire l'apologie de la monarchie absolue. Voyez comme il se garde d'employer les arguments tirés de la Bible dont l'évêque Filmer s'armera une génération plus tard pour succomber aux critiques de Locke. Ce n'est pas de la souveraineté de Dieu que Hobbes déduira le droit illimité du pouvoir, c'est de la souveraineté du peuple. Il se donne des hommes naturellement libres. Ce n'est pas en juriste mais en physicien qu'il définit cette liberté primitive comme l'absence de tout empêchement extérieur. Cette liberté d'action se déploie jusqu'à ce qu'elle se heurte à la liberté de quelque autre. Le conflit se règle selon le rapport des forces. Comme le dit Spinoza, chaque individu a un droit souverain sur tout ce qui est en son pouvoir. Autrement dit, le droit de chacun s'étend jusqu'où s'étend la puissance déterminée qui lui appartient. Il n'y a donc de droit en vigueur que celui des tigres à manger les hommes. Il s'agit de sortir de cet état de nature où chacun saisit tout ce qu'il peut et défend comme il peut ce qu'il a saisi. Ces libertés féroces ne donnent aucune sécurité, ne permettent aucune civilisation. Comment donc les hommes n'en viendraient-ils pas à se les abandonner mutuellement en vue de la paix et de l'ordre ? Hobbes va jusqu'à donner la formule du pacte social. J'abandonne mon droit de me régir à cet homme ou à cette assemblée sous condition que tu abandonnes pareillement le tien. Ainsi conclut-il, la multitude est devenue une seule personne qu'on appelle cité ou république. Telle est l'origine de ce Léviathan ou Dieu terrestre auquel nous devons toute paix et toute sécurité. L'homme ou l'assemblée à qui ont été remis sans restriction des droits individuels et illimités se trouve possédé un droit collectif illimité, dès lors affirme le philosophe anglais. Chaque sujet étant, par l'institution de la République, rendu auteur de toutes les actions et jugements du souverain institué, celui-ci ne lèse, quoi qu'il fasse, aucun des sujets et ne peut jamais, par aucun d'eux, être accusé d'injustice. Car n'agissant que par mandat, comment ceux-ci, qui lui ont confié ce mandat, seraient-ils fondés à se plaindre ? Par institution de la République, chaque particulier est l'auteur de tout ce que fait le souverain. En conséquence, qui prétend que le souverain lui fait tort s'en prend à des actes dont il est lui-même auteur et ne doit accuser personne que lui. Citation du Léviathan de Hobbes, c'est une proposition fondamentale et que Hobbes se reprend sous toutes les formes s'agissant d'un acte particulier du souverain représentant du peuple envers un individu. N'est-ce pas là une grande extravagance ? Mais Spinoza, en des termes moins frappants, affirme également le droit illimité du pouvoir. Que le pouvoir suprême appartienne à un seul, soit partagé entre quelques-uns ou commun à tous, il est certain qu'à celui qui le détient, le droit souverain de commander tout ce qu'il veut appartient aussi. Le sujet est tenu à une obéissance absolue aussi longtemps que le roi, les nobles ou le peuple conservent le souverain pouvoir que leur a conféré le transfert de droit. Il affirme lui aussi, le souverain auquel par droit tout est permis ne peut violer le droit des sujets. Voilà donc le plus parfait despotisme déduit par deux illustres philosophes du principe de souveraineté populaire. Celui à qui appartient le souverain pouvoir peut tout ce qu'il veut, le sujet lésé doit se considérer comme l'auteur même de l'acte injuste. Nous sommes tenus d'exécuter absolument tout ce qu'enjoint le souverain, alors même que ses commandements seraient les plus absurdes du monde, précise Spinoza. Quelle différence avec le langage de saint Augustin ! Mais pour autant que nous croyons en Dieu et que nous sommes appelés à son royaume, nous n'avons pas à être soumis à aucun homme qui tenterait de détruire le don que Dieu nous a fait de la vie éternelle. Quel contraste entre le pouvoir tenu d'exécuter la loi divine et le pouvoir qui totalise les droits individuels et est entièrement libre de sa conduite.
Merci Elsa pour cette lecture. Je voulais juste vous rappeler que vous pouvez soutenir Civis Pacem, l'Union Pacifiste, en vous abonnant au journal papier. Le journal papier coûte 30 euros l'année et l'adhésion à l'Union Pacifiste de France, 25. Donc ça fait un petit total de 55 euros. Et vous pouvez envoyer votre chèque à l'Union Pacifiste, section française de l'Internationale des résistants de la guerre, au 66 boulevard Vincent Auriol, 75 013 Paris. Je rappelle l'adresse, 66 boulevard Vincent Auriol, 75 013 Paris. Et si vous voulez réécouter les émissions de Civis Pacem, vous pouvez aller sur le site media.radio-libertaire.org. Et si vous voulez joindre, il y a aussi le site internet de l'Union Pacifiste, www.unionpacifiste.org. Voilà, en vous remerciant de nous avoir écoutés, et vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la voix de la Fédération anarchiste, et sans Dieu ni maître.
Et sans publicité.
Surtout sans publicité. À jeudi prochain. Au revoir.
Au revoir.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bande. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Remercie pour cette part de rêve et pour cette éclaircie quand il manquait de sève. Elle tombe en sanglots, les souvenirs l'agressent. Elle revit les complots, les rires, les caresses. Balaye jusqu'au fond, se mouche à perdre haleine, s'enferme, se morfond, liquide enfin sa peine. Allô, je suis restée, j'ai raté mon voyage. Ma femme m'a repêchée, pardon, je serai sage. Ah non, je t'ai pleuré, pleuré jusqu'au naufrage. J'ai tout cicatrisé, tu peux mourir, dégage. Et elle a raccroché.
Fais voir à papa ou ta bobo. Fais voir à papa ou ta bobo. Où ta bobo? Où c'est ta bobo? Fais voir à papa ou ta bobo, je te dis. Où ta bobo? Fais voir à papa ou ta bobo. Fais voir, je veux voir où ta bobo. Où ça ta bobo? Fais voir à papa. Ça? Mais c'est rien ça. C'est rien ça.
filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille, même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches. Sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Même qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qu'il a.
Bonsoir, c'est Jazz Libre Radio Libertaire 89.4. Toute l'équipe Yves et Laurent de Jazz Libre vous souhaite une bonne année 2024 en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente. Voilà. Alors, ce jeudi, Jazz Libre étant hors les murs, nous vous proposons en fait de démarrer l'année en douceur et on va rediffuser pour l'occasion une émission du 1er août 2013, 10 ans déjà, consacrée au duo, un duo qui était éphémère. De deux monstres sacrés du saxophone ténor, il s'agit de Coleman Hawkins, surnommé The Bean, le haricot, ou Hawk, le faucon, diminutif de Hawkins, et Ben Webster, la brute ou la grenouille, c'est le en fonction de... Voilà. Alors, sachez que cette rediffusion va être augmentée de quelques morceaux pour pouvoir tenir, puisqu'à l'époque, Jazz Lib ne faisait qu'une heure et demie en durée. Donc, voilà, c'est pour ça que vous allez même écouter le dernier morceau de l'émission 2013 en entier. Et plus un document exceptionnel que je vous repréciserai au moment de la fin de l'émission. Une émission tirée d'émission de télévision de CBS aux États-Unis de 1958. Et je ne vous dis que ça. Voilà, à tout à l'heure, Fraternity Swing, on vous renouvelle tous nos voeux, et puis on s'excuse, mais là on est hors les murs. Voilà, également, je vous rappelle que la radio est une radio associative qui a besoin de votre soutien. Soutien intellectuel, politique et moral, et soutien financier. Vous avez la possibilité de télécharger le bon de soutien sur le site de la Fédération anarchiste. Vous avez également la possibilité de le retirer à la librairie Publico, 11 rue Amelot, dans le 11e, à Paris. Je vous ai tout dit, je crois, vous êtes bien. Nous sommes bien sur Radio Libertaire 89.4. L'émission, c'est Jazz Lib. Claude derrière les platines, Yves derrière le micro. Ce soir, une émission différente. Nous sommes à Radio Libertaire, donc nous en profitons pour faire des choses différentes. Et donc, ce soir, nous allons nous pencher sur un enregistrement important, intéressant, magnifique, qui est la confrontation de deux géants, de deux monstres absolument singuliers et assez effrayants. Alors, nous allons commencer par le plus vieux, honneur aux aînés. Il s'agit de Coleman Hawkins, que l'on surnommait le haricot. Il est né un 21 novembre 1904 et il est mort un 19 mai 1969. Il est considéré comme étant l'inventeur du saxophone ténor, même si lui s'en défend en disant qu'il y avait d'autres saxophonistes avant lui, sans doute vrai, dans des orchestres comme les orchestres de... qui sont venus avant lui de Chicago. Mais le rôle des orchestres, notamment dans l'orchestre de Fletcher Anderson, était relativement le rôle des saxophonistes était relativement limité, puisqu'ils avaient tendance à faire ce qu'on appelle du burlesque, d'imiter des animaux, ce genre de choses. Or, Coleman Hawkins est le premier qui va imprimer, je dirais, une modernité dans le discours du saxophone. Et il va avoir, je dirais, tout le long de sa carrière, une vision d'avant-garde, à tel point que tous les saxophonistes modernes se sont inspirés de lui. Et que ce soit Coltrane, Rollins, Dexter Gordon, ont tous reconnu que Coleman Hawkins était l'influence primordiale sans laquelle il n'aurait pas joué. D'un autre côté, nous avons Ben Webster, qu'on peut considérer comme un disciple, qui est né un 27 mars 1909 et qui est mort un 20 septembre 1973, qu'on appelait la brute. C'est assez justifié, ce que vous verrez, c'est un son extrêmement fort, extrêmement rocailleux. À cette époque, dans les années 30, 40 et 50, je dirais début 50, il y a trois saxophonistes